mais les mélomanes.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà.
Un orchestre est un monde. Un monde où chaque personne vient avec son propre instrument, son propre talent, pour jouer ensemble le temps d'un concert avec, pour seul idéal, de trouver l'unisson, d'en exprimer la mesure, d'atteindre l'harmonie. Seulement le temps d'un concert.
Plus rien.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Méli Méloman. Alors, vous le savez sans doute, même si vous n'êtes pas très religieux, nous approchons de Pâques. Les rameaux, Pâques, la semaine sainte, la semaine de Pâques. Alors, il paraît que cette époque de la première lune de printemps, puisque c'est ce qui détermine la date de Pâques, est propice au vent dans la région, dans cette région d'Occitanie et du Languedoc, propice au vent qui souffle très fort, souvent, dans cette période-là. Et ça n'a pas manqué cette année. C'est vrai qu'il y a pas mal de vent ces jours-ci. Alors, eh bien voilà une bonne raison pour rendre ce vent-là musical. Eh oui, vous savez que parmi les instruments de l'orchestre, il y a une famille d'instruments qu'on appelle les instruments à vent. Ah, ils sont nombreux. Ils sont très anciens, c'est des instruments qui pour certains ont plusieurs millénaires. On a trouvé des très très vieux instruments. Alors il y a différentes familles, il y a les bois, il y a des instruments à hanches, des instruments sans hanches, il y a des instruments à embouchure. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est clair, c'est que dans l'orchestre moderne, les instruments à vent n'ont pas besoin d'être très nombreux pour se faire entendre. Et parfois, ils peuvent même quasiment se passer des cordes. Allez, un premier exemple. Et voilà, alors cette formidable musique aux allures de danse populaire et en même temps remplie d'une immense tendresse, eh bien, c'est Antonín Dvořák, le compositeur tchèque. C'est sa sérénade pour instrument à vent, son opus 44. Alors, il y avait du monde. Hein. Il y avait deux clarinettes. Hein. C'est ce qu'on appelle des hanches simples, techniquement. C'est juste une lamelle qui vibre et qui produit le son. Et puis, il y avait des instruments, ce qu'on appelle des hanches doubles, de la famille des hautbois. Il y avait deux hautbois, deux bassons, un petit peu plus graves, et un contrebasson, encore plus grave. Et puis, trois cors, hein, qu'on entend aussi. Cors qui est un instrument en embouchure. Et puis, allez, bon, un violoncelle, une contrebasse quand même, parce qu'on ne va pas abandonner ces pauvres cordes dans leur coin. Hein. Alors Dvorak, il a composé cette œuvre-là en 1878. C'est un peu le moment où il va se faire connaître. Hein. Il a déjà composé 5 symphonies. 4 ont été perdues pendant de nombreuses années. On les a retrouvées dans les années 50. Mais il va en faire une petite rencontre. Il va rencontrer un certain Johannes Brahms. Vous savez, le compositeur des danses hongroises. Et justement, Brahms va mettre en contact Dvorak avec l'éditeur des danses hongroises, qui sont écrites pour piano à quatre mains, Simrock, et Dvorak va écrire les danses slaves, et ça y est, voilà sa renommée européenne lancée. Renommée européenne, il ira jusqu'aux États-Unis, hein, il va faire sa fameuse symphonie du Nouveau Monde, et il décédera en 1904. Alors, je disais Symphonie du Nouveau Monde. Allez, un autre compositeur qui vient du Nouveau Monde, qui est né hein, et qui s'est intéressé aussi à ces instruments-là, c'est Günther Schuller. Ah, c'est un nom qui sonne allemand, effectivement, mais vous savez qu'aux États-Unis, on a des noms de tous les pays. Hein. Et il est né en 1925 à New York, mort à Boston en 2015, donc il est resté dans les États-Unis, pardon. Ben, il a été corniste. Alors corniste, c'est pas un joueur de cornet, non, c'est un joueur de cor. Hein. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et il a joué dans des orchestres prestigieux. L'orchestre de Minneapolis, pas très prestigieux, mais quand même après l'orchestre du Metropolitan Opera. Donc le grand opéra de New York, alors quand même. Hein. Et puis surtout, ce qu'il a eu de spécial, Günther Schuller, c'est que très vite, il s'est beaucoup, beaucoup intéressé au jazz. Hein. Il va même jouer en 49, je crois pas qu'il y ait de traces d'enregistrement, avec l'ensemble de Miles Davis. Ah, quand même. Hein. Et puis, même un petit peu avant ça, en 55, il a rencontré, ils ont lié une solide amitié, un pianiste très élégant qui touche beaucoup la musique classique, John Lewis, le pianiste du Modern Jazz Quartet. Donc, des pointures dans le jazz. Hein. Et ben, il va travailler comme ça. Avec John Lewis, ils vont inventer comme ça ce qu'ils vont appeler la Third Stream Music. Le troisième courant, ni classique, ni jazz, mais un mariage des deux. Mariage de conviction plus que de raison, mariage de passion, on va dire. Alors, Miles Davis, bien sûr, le Modern Jazz Quartet avec John Lewis, Jerry Mulligan, Dizzy Gillespie, Charlie Mingus et même Frank Sinatra. Alors, à fréquenter des musiciens de jazz comme ça, il n'a pas été forcément très bien vu de l'establishment de la musique classique, un petit peu marginalisé, mais un compositeur digne d'intérêt. Et il s'est intéressé, avant tout ça, dès 1945, aux instruments à vent. Et je vous propose d'écouter intégralement, parce que c'est pas très long, sa suite en 3 mouvements, avec un prélude, allegro, un blues, andante, et une toccata presto. Thank you. Voilà la suite de Gunther Schuller. Vous attendez que le mariage entre classique et jazz, il y est, quoi. Il y est. Hein. Alors, ben là, un quintet avant, hein, en fait. Alors, c'est le quintet avant de Reykjavik, hein, donc d'Islande. Et dans cet ensemble, il y a une flûte, un hautbois, une clarinette, un cor et un basson. Autant d'instruments, on se dit, tiens, s'ils allaient faire un tour du côté du jazz, ça pourrait être très, très, très intéressant. Hein. Voilà, Gunther Schuller, productif, hein, 160 œuvres à peu près quand même recensées. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Allez, on va continuer notre petit voyage et se laisser porter par les vents. Alors là, ils vont souffler dans l'autre sens, ils vont nous ramener dans le pays de Dvorak. Et oui, on va, mais un peu plus loin dans le temps, hein, on va découvrir un compositeur, Antonín Rajcsa, ou Anton Rajcsa, voire même Antoine Rajcsa. Pourquoi ? Bah parce qu'il est né à Prague, d'accord, mais il est allé à Hambourg, à Vienne et à Paris. Et c'est même à Paris qu'il va finir sa carrière et qu'il décédera. Alors, il a quand même quelque chose, on ne le connaît pas beaucoup, alors une famille de musiciens, son oncle déjà était compositeur, Joseph Rajcsa, dont on a, vous pourriez trouver des choses comme ça, enregistrées, mais il avait un copain avec qui il a fait ses études et il a gardé une certaine amitié avec lui. Hein, Ludwig van Beethoven, quand même. Alors, le problème, c'est que quand on a comme copain quelqu'un comme Beethoven, qui a écrit des œuvres mineures aussi, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, hein, il y a aussi des œuvres pas terribles dans la production de Beethoven. Quand même, la célébrité, se faire connaître, c'est un peu difficile. On est vite dans l'ombre. Hein. Il a quand même écrit beaucoup de choses. Il s'est beaucoup intéressé aux instruments avant. Il a même écrit des trios pour trois corps. C'est quelque chose qui est assez rare. Et puis, il a écrit, dans les années 1810, toute une série de quintettes avant. C'est son opus 88, il en a écrit 6. Allez, je vous reparle d'un petit peu de lui après. Un petit extrait d'un de ses quintettes avant de Antoine Rajcsa. Thank you. Extrait du quintet avant d'Anton Reicha, l'opus 88 numéro 2, c'était le troisième mouvement. Anton Reicha, compositeur contemporain et ami d'un certain Ludwig van Beethoven. Un compositeur vraiment à redécouvrir qui a écrit beaucoup de choses. Je vous encourage à explorer, à découvrir un petit peu. Je vous en passerai de temps en temps, mais à aller chercher. Allez, on va terminer avec le local de l'étape. Oui, le local. Oui, le local, j'ai bien dit le local. Un compositeur né à Lodève. Alors, les Lodévois doivent tout de suite, les gens de Lodève doivent tout de suite savoir qui c'est. Georges Auric. Et oui, Georges Auric, qui est né en 1899 à Lodève. On y reviendra. Il mérite bien une ou plusieurs émissions à lui tout seul, ne serait-ce que parce qu'il est local, hein, soyons un peu chauvins. Il a fait ses études au conservatoire de Montpellier. Et il a surtout rejoint ce qu'on a appelé le groupe des six, avec Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, notamment. Et à travers ce groupe des six, il a rencontré un certain Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est pas rien. Et aussi un jeune écrivain, Raymond Radiguet, qui a vécu que 20 ans, mais qui a écrit des textes qui ont marqué l'histoire de la littérature française. Et pour Cocteau, bah, il a fait des musiques de films. La Belle et la Bête, Les Parents Terribles, Le Sang d'un Poète, Orphée, et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Puis il a aussi écrit, composé la musique du Salaire de la Peur, de Lola Montes, de Notre-Dame de Paris, vous savez, avec le fameux Anthony Quinn, et Alain Cuny, et Gina Lollobrigida. Voilà, il a fait énormément de choses, y compris un trio pour instruments avant que je vous propose dont je vous propose un mouvement tout de suite. Thank you. Et voilà, c'était le final du trio de Georges Auric. Alors, Georges Auric, compositeur originaire de Lodève. Les interprètes, bah, c'était le trio d'anges Georges Auric, pas très original. C'est, attention, attention, des musiciens issus de l'orchestre de Montpellier. Gilles Loulier au bois, Daniel Palluant à la clarinette, Denis Lardic au basson. Au moins deux d'entre eux sont encore dans l'orchestre aujourd'hui. L'enregistrement a quelques années. Voilà, c'était Méli Mélomane, une émission proposée par Marco Sorghin, réalisée par Bruno Bertrand. Et nous comptons sur vos oreilles pour notre prochaine émission. Méli Mélomane.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.